Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, ravie de repartir avec vous en vadrouille pour prendre la température ailleurs. Et ailleurs aujourd'hui, ce sera d'abord en Pologne et en Grande-Bretagne, deux pays où le 11 novembre est une date importante, comme ici, et pourtant elle est abordée différemment, teintée de nationalisme et d'extrême droite en Pologne, et avec une dominante rouge au Royaume-Uni, le rouge du coquelicot, le poppy que chacun se doit de porter à la boutonnière. Ailleurs, ce sera aussi au Guatemala, où arrivent plus de 4000 deportados par mois. Ce sont les migrants expulsés des États-Unis, où ils vivaient parfois depuis tout petit. Arrivés dans leur pays d'origine, ils sont perdus et montrés du doigt. On parlera d'Irak aussi, avec Ferhat Alani, journaliste franco-irakien, qui raconte son pays d'Orient à travers un récit graphique et une web-série très touchant. Il sera avec nous. Et on ira par ailleurs dans le sud du pays découvrir l'ampleur de la crise que provoque une terrible sécheresse régionale. Le roman du jour de Nicolas Carré nous transportera sur le continent africain et Joseph Chovanec nous emmène au zoo, mais à sa manière. Ce sera une visite d'un des dotistans, celle-là. Les carnets sont ouverts, d'abord au diapason du 11 novembre. C'était il y a 100 ans la fin d'une guerre absolument terrible, une victoire baignée du sang de près de 10 millions de soldats et presque autant de victimes civiles. 100 ans après, c'est surtout la paix qu'on célèbre. Cet après-midi démarre d'ailleurs le premier forum de Paris sur la paix qui sera ouvert par une intervention de la chancelière allemande Angela Merkel. Tout est symbole. La commémoration du 11 novembre et en particulier de ce centenaire est transnationale. Pas moins de 98 délégations étrangères sont à Paris aujourd'hui, 72 chefs d'État ou de gouvernement. Et pourtant, chaque pays concerné par ce centenaire de l'armistice garde ses particularités. Dans les carnets, on en observe deux ensemble aujourd'hui. Et tout de suite, c'est en Pologne que l'on file. Depuis Varsovie, on est en ligne avec Maja Zoltowska. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Vous êtes journaliste, correspondante du journal Libération. Et il faut faire d'abord un peu d'histoire ensemble. L'armistice de 1918 en Pologne, c'était pas seulement la fin de la guerre. On peut dire, en quelque sorte, que le 11 novembre, chez vous, c'est un peu comme notre 14 juillet.
Pas vraiment pour ce qui est de l'ambiance. En France, c'est une fête joyeuse. En Pologne, elle suscite beaucoup de tensions politiques. Ouais. Je crois qu'on va y revenir. Mais ouais. Ce qui est vrai, c'est que le 11 novembre, en Pologne, on marque surtout la renaissance du pays en 1918, ouais. Après plus d'un siècle de domination par ses trois voisins, la Russie, l'Allemagne et l'Autriche, qui pendant 123 ans se sont partagés le pays. Aussi, cette fête de l'indépendance ici est encore jeune. Elle a été instaurée en 1937, tout juste avant la Seconde Guerre mondiale. Puis les communistes l'ont interdite. Ouais. Et le 11 novembre était un jour ouvrable, simple. Ouais. Ça n'empêchait pas les gens, les dissidents, d'aller se recueillir et célébrer illégalement cette fête, ce qu'ils ont souvent payé par des arrestations. Et c'est seulement à la chute du communisme que la fête a été rétablie.
Et donc chaque année maintenant, le 11 novembre, c'est l'occasion d'une grande marche censée unir tous les Polonais autour de cette idée d'indépendance. C'est le centenaire en plus cette année, mais en fait c'est pas si simple, ça se passe pas comme ça sur le terrain.
Oui, unir la société autour de cette date, c'était l'objectif du pouvoir conservateur, qui a même adressé à l'opposition libérale une invitation à long, main dans la main, dans une grande marche à travers la capitale. Ouais. L'idée du PiS, en fait, du parti Droit et Justice, était en fait de récupérer la grande marche des nationalistes qui a lieu depuis une dizaine d'années à Varsovie. Ouais. Elle est organisée par les jeunesses de l'extrême droite et d'année en année, elle prend de l'ampleur. D'ailleurs, avec la crise migratoire, il y a de plus en plus de partisans. L'année dernière seulement, elle a réuni 60 000 Polonais avec des Hongrois qui arrivent toujours en renfort. Ouais. Donc, on a d'un côté les slogans « Dieu, patrie, honneur » qui sont chers à tous les Polonais et donc qui attirent pas mal de gens. Et qui veulent rien avoir avec l'extrême droite. Ouais. Et de l'autre côté, il y a des slogans xénophobes, racistes, comme la Pologne aux Polonais, comme la Pologne sera blanche ou ne sera pas. Mmh. Et bien sûr, pour l'opposition, c'est inimaginable de se joindre à eux. Et elle accuse le PiS, à juste titre, qu'elle joue avec le feu en flirtant avec l'extrême droite.
Ouais, d'ailleurs, en ce début d'après-midi, il y aura plusieurs cortèges avec des messages radicalement opposés, hein, Maya.
Oui, alors chacun, en quelque sorte, organise sa propre cérémonie. La société civile, Acta Democratia, peut-être comme l'année dernière, tentera de se mettre de travers de la marche nationaliste pour montrer justement cet autre visage de la Pologne, une Pologne démocratique. Et donc la situation est tendue, est très tendue à Varsovie. Du rond-point Dmowski partiront deux marches cet après-midi. Une marche officielle avec le président Andrzej Duda et une marche de l'extrême droite du même endroit et pratiquement à la même heure. Seulement des drapeaux blancs, rouges, polonais sont autorisés. L'extrême droite attend quelque 250 000 personnes. Mais il y aura aussi des antifascistes qui devraient marcher. Une chose est sûre, toutes ces marches seront encadrées par d'énormes dispositifs de sécurité. Pour la première fois d'ailleurs, l'armée est appelée en renfort.
Ouais, on est loin de l'ambiance pacifiste et unitaire que d'autres mettent en avant pour cette date pleine de symboles. Merci beaucoup Maya Zotowska pour ce décryptage depuis Varsovie. À une prochaine fois peut-être.
Merci bien, merci à vous.
À propos de symboles justement, on traverse la Manche pour s'intéresser à l'emblème des commémorations du 11 novembre en Grande-Bretagne. C'est le poppy, c'est-à-dire le coquelicot, cette petite fleur rouge sauvage qui repoussait encore et toujours sur les champs de Flandre dévastés par les combats. Depuis 1921, les Britanniques accrochent un petit poppy de papier rouge à leur boutonnière, pas seulement le 11 novembre, mais deux semaines avant déjà. Les gains sont reversés aux vétérans et aux militaires dans le besoin cette année avec le centenaire. On espère vendre 40 millions de poppies. Cette petite fleur est devenue un symbole de l'identité britannique. Au-delà d'un signe de mémoire, le poppy est aussi devenu un signe politique. Écoutez ce reportage d'Anaïs Cordoba.
Au pied de l'abbaye de Westminster, dans le jardin du souvenir, Colin et ses compagnons parachutistes plantent des petites croix de bois au nom de leurs frères d'armes tombés au combat.
W, Y, Z. Voilà, maintenant on va planter les croix dans l'ordre alphabétique.
Ces croix sont plantées tous les ans pour l'anniversaire de l'armistice. Elles sont toutes ornées d'un poppy rouge, symbole du sacrifice de ceux qui ne sont jamais revenus depuis la Grande Guerre jusqu'à l'Afghanistan. En en parlant, Colin a les larmes qui montent.
Notre liberté, nous l'avons obtenue il y a 100 ans. Ils se sont battus pour notre liberté. Le poppy, ça veut dire se souvenir de nos frères d'armes, de nos amis qui sont tombés au combat. On se souvient de tous les jours. J'espère que le jour où je partirai, un poppy sera accroché à mon cercueil.
De l'autre côté de la rue, le quartier des ministères où s'affairent jeunes assistants parlementaires, fonctionnaires, employés administratifs. Ici, il est rare de croiser une veste sans poppy. Ne pas en porter relève du mauvais goût. Parmi cette foule, Georgina, 25 ans, détonne. Cette jeune Anglaise, dont les deux arrière-grands-pères ont combattu en 14-18, arbore deux poppies sur son manteau, l'un rouge, l'autre blanc.
Depuis que je suis toute petite, je porte le poppy rouge. Mais depuis ces deux dernières années, je porte aussi un poppy blanc. En fait, le poppy rouge ne représente que les soldats qui ont perdu leur vie du côté britannique. Et je suis contre la guerre. Je ne soutiens pas la militarisation. Et le poppy blanc, c'est un signe pacifiste. En portant les deux, je montre mon soutien aux soldats britanniques, mais aussi aux autres victimes de la guerre.
Créé en 1933 par un mouvement de femmes pacifistes, le poppy blanc dérange. Il est perçu comme une provocation antipatriotique. Par le passé, le fait d'en porter un pouvait même faire perdre son emploi. Dans le nord de Londres, le petit passage de la paix, où se trouvent les locaux de la Peace Pledge Union, l'association qui vend le poppy blanc, des bénévoles sont venus empaqueter des colis à envoyer dans tout le pays. Pour le centenaire, plus de 117 000 poppies blancs ont déjà été vendus. C'est un record, m'explique Sarah.
Ça s'explique avec l'effet du centenaire. On n'avait dit plus jamais ça, mais les guerres ont continué durant le 20e et 21e siècle. C'est une réaction aux guerres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, aux discours ambiants de course à l'armement. Et les gens sont de plus en plus inquiets de la direction que prend le monde.
Mais ce symbole pacifiste reste encore très minoritaire face aux poppies qui se vendent par dizaines de millions. Outre-Manche, la célébration du courage des héros héros de la guerre priment toujours sur celle de la paix en Europe. Un état d'esprit renforcé par la perspective du Brexit, regrette Sarah, toujours dans ses cartons de poppies blancs.
Au Royaume-Uni, on a construit notre histoire nationale autour de notre participation à la Seconde Guerre mondiale. On a glorifié notre victoire face aux nazis, plutôt que de montrer ce qu'il a fallu reconstruire ensemble en Europe pour obtenir la paix. Et l'Europe qui a permis la paix, c'était l'un des arguments durant la campagne du référendum pour rester. Et donc, c'est peut-être un sujet que l'on préfère éviter, vu le climat politique actuel.
Ce dimanche, en Grande-Bretagne, les activistes du Poppy Blanc organisent une cérémonie de commémoration alternative pour toutes les victimes de la guerre. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Voilà le poppy, petite boutonnière rouge ou blanche, donc parfois absolument incontournable au Royaume-Uni aux alentours du 11 novembre. Regardez la BBC si vous ne me croyez pas. Les journalistes, les animateurs, les invités, tous portent le petit coquelicot rouge. C'est obligé.
Europe 1.
À suivre, le difficile retour des immigrés expulsés des États-Unis. On va rencontrer des Guatémaltèques qui avaient toujours vécu en Amérique et qui se retrouvent en pays inconnu.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Sophie Larmoyer, on va revenir sur un thème qui a joué un rôle dans la campagne des midterms aux États-Unis, celui de l'immigration.
Bizarrement, une fois le vote passé, les médias chers à Donald Trump ne parlent plus de ces caravanes de migrants qualifiées de très dangereuses qui remontent vers la frontière. On peut dire que le président américain a plutôt bien réussi son coup, remobiliser sa base en agitant cette peur de l'invasion des immigrés. Aujourd'hui, dans les carnets, on vous propose de voir un envers du décor. La situation très difficile des milliers de migrants expulsés des États-Unis. L'un de leurs principaux pays d'origine, c'est le Guatemala, où plus de 4200 personnes sont renvoyées chaque mois. Un chiffre qui a augmenté de plus de 80% au premier trimestre de cette année par rapport à 2017. Nous voilà à Ciudad de Guatemala, dans les pas de Cécile Debarge, qui nous emmène dans les locaux de Teconecta, la seule association qui essaye d'aider les deportados, comme on les appelle, à trouver un emploi pour subsister. Reportage.
Sur l'écran de l'ordinateur, des taches de couleur ponctuent chacun des mots que Ramon René Francisco Diaz, 26 ans, tape sur le clavier. Vert pour une dactylographie impeccable, rouge à chaque faute de frappe.
La vitesse n'est pas vraiment importante. Tu dois juste ne pas faire d'erreur en tapant. Et si tu y arrives, alors tu passes à l'exercice suivant.
Objectif 30 mots par minute en anglais, un score qui ouvrirait au jeune homme les portes du recrutement dans un centre d'appel. C'est son seul espoir pour s'inventer une nouvelle vie au Guatemala, un pays qu'il a quitté à l'âge de 15 mois lorsque sa mère l'a emmené clandestinement aux États-Unis.
J'ai grandi là-bas pendant près de 24 ans. J'ai grandi avec les valeurs américaines. Et revenir dans l'endroit où je suis né, sans savoir qui est le président, c'est quelque chose de vraiment difficile parce que je ne sais rien du Guatemala.
Ramon est originaire de Santa Cruz Barrias, dans la province de Huehuetenango, près de la frontière mexicaine. Mais sa vie est à Los Angeles, où il était assistant photographe et où se trouve encore toute sa famille. À la question « Se sont-ils plus américains que guatémaltèques ?», Ramon commence en espagnol.
En vérité, oui, parce que, comme je te le disais, j'ai grandi...
Il cherche ses mots et termine en anglais.
Les valeurs américaines, c'est là-dedans que j'ai grandi. Pour la plupart, on a passé toute notre vie là-bas. Donc revenir ici, pour nous, c'est ground zero.
Assis à côté de lui, en plein exercice de dactylographie, lui aussi, Marlon Oliver Trujillo a été renvoyé au Guatemala après 25 ans passés entre le Michigan et l'Illinois.
Mon frère vit à New York et mon père à Chicago. Le reste de ma famille est au Texas. Et mon bébé aussi est là-bas, Joshua. J'aimerais retourner aux États-Unis, mais je ne sais pas si je pourrais. Je veux voir mon bébé, je veux le voir.
Bandana blanc sur la tête, pantalon large, look de rappeur américain, ce père de famille de 44 ans a dû tout quitter en quelques heures.
Ils m'ont dit de partir et c'était tout. Deux mois plus tard, j'ai demandé à des potes de récupérer mes affaires.
Comme lui, 42 336 migrants guatémaltèques ont été expulsés des États-Unis entre le 1er janvier et le 30 octobre. L'année dernière, ils étaient 25 374 à la même période. Les expulsions qui avaient déjà largement commencé sous la présidence Obama, explique José Andrés Ordóñez, qui dirige l'association Te Conecta.
Les retours ont augmenté, mais on n'a reçu aucun soutien. Ce n'est pas quelque chose qui a lieu une fois par mois ou une fois par semaine. Non, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, de tous les mois, de toute l'année. Et avec un flux pareil, c'est une crise humanitaire qu'on vit.
Environ 30% de ces expulsés n'ont plus personne au Guatemala. Certains se retrouvent à la rue, dorment dans les parcs. Seule une association leur fournit repas et hébergement et une autre, Te Conecta, tente de leur garantir un avenir professionnel et de les réadapter à la vie guatémaltèque, explique le coordinateur de projet de Te Conecta, Yefri Namam Ramos González.
Il y en a beaucoup qui ne savent même pas prendre le bus public ou bien qui ont peur d'être agressés dans la rue.
Pour ne rien arranger, les deportados souffrent d'une réputation sulfureuse au Guatemala. Renvoyés des États-Unis pour avoir violé les lois américaines, le plus souvent pour absence de documents en règle, ils sont considérés comme des criminels. Elmer Leonel Urtate Madzen, par exemple, a été expulsé après une condamnation pour conduite en état d'ivresse et séjour illégal sur le territoire américain.
C'est pas possible que l'on soit discriminé à la fois aux États-Unis et de nouveau ici dans notre propre pays. On est ici et on lutte vraiment pour se frayer un chemin, alors que c'est chez nous. On n'a nulle part ailleurs où aller.
Dès qu'ils le peuvent, José et son équipe de Te Conecta organisent un déjeuner autour d'une pizza ou des moments de discussion informelle.
On a aussi cette fonction de recréer une communauté, de créer du lien entre les personnes et de faire en sorte qu'ils sentent à nouveau qu'ils font partie de cette société.
Le défi est énorme. Jusqu'à présent, le gouvernement guatémaltèque a privilégié ses bonnes relations avec les États-Unis. Sans grand résultat, Donald Trump, lui, a annoncé fin octobre qu'il réduirait l'aide envoyée au pays, jugé incapable, selon lui, de retenir ses migrants. À Ciudad de Guatemala, Cécile Debarge, Europe 1.
Voilà, et à la veille des élections américaines, il y a une semaine, Donald Trump a annoncé qu'il saisissait la Cour suprême pour mettre fin au programme DACA mis en place par Obama. Vous savez, c'est ce programme qui protégeait les Dreamers, ces jeunes immigrés arrivés très jeunes en Amérique, et pour leur permettre de vivre et d'étudier aux États-Unis. Beaucoup des jeunes guatémaltèques qu'on a entendus dans ce reportage auraient pu être inscrits à ce programme des Dreamers.
Europe 1.
Dans quelques instants, troisième sujet, troisième continent, on file en Afrique, à travers les pages d'un roman cette fois, à tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, nous sommes avec Sophie Larmoyer et c'est une autre manière de raconter le monde, la littérature, Sophie.
Un livre dans le monde, c'est notre époque vue à travers le regard d'écrivains. Et tout ça grâce à Nicolas Caro. Bonjour l'ami.
Bonjour Sophie.
Votre voyage littéraire nous emmène en Afrique cette semaine avec un auteur congolais qui raconte une histoire marocaine.
Oui, l'auteur c'est Inkoli Jean Bofane. Il s'est taillé une belle renommée déjà avec deux romans, Mathématiques congolaises et Congo Inc, le testament de Bismarck. Il revient avec La Belle de Casa chez Actes Sud. Regardez-moi cette couverture Sophie, magnifique. C'est superbe. On voit un type improbable, noir, avec une chemise à pois rouges, un bonnet en laine, de grosses lunettes de soleil. Il nous regarde en crânant avec sa cigarette. Je dois dire que c'est pas toujours le cas, mais là... C'est la couverture qui m'a décidé à ouvrir le livre.
Oui, à l'intérieur, vous y avez trouvé quoi ?
Un meurtre, d'abord. Ah. Nous sommes au Maroc, à Casablanca. Mmh. Je vous lis le début, on est tout de suite dans l'ambiance. Sitôt le drame connu, un même cri retentit dans tout le quartier d'Herptaliane. Ishraq Metet, Ishraq est morte. Et Sese Chimanga voulut être celui qui l'annoncerait à Mokhtar Daoudi.
Ah, tout de suite, il y a du monde, hein, dès les premières lignes.
Trois personnes en une phrase. Je vous les présente. Ishraq, c'est une femme très belle. Elle vient d'être assassinée. Sese, il vient du Congo. Il a fui la guerre et il s'est fait rouler par un passeur rencontré à Dakar. Mmh. Le type lui avait promis de l'emmener en France, à Deauville exactement, sur son bateau. Il l'avait fait rêver, mais Sese... s'est retrouvé finalement au Maroc en pleine nuit et il n'a pas eu le choix, il est resté. Et puis il y a Mokhtar, c'est le commissaire de police. Mokhtar et Sese sont amis, Enfin, vous allez voir, il se rend sur la scène du crime. Mokhtar fait dégager les badauds et ensuite, il annonce à Cécé qu'il doit l'incarcérer. C'est la règle, puisque c'est lui qui a vu la victime vivante en dernier. Cécé n'est pas d'accord, on comprend, je lis. Mais Mokhtar, quand même, sois sympa. Si c'était moi, je n'aurais pas couru te prévenir. Réponse de Mokhtar, c'est vrai, mais je dois écrire un rapport et une garde à vue. Crois-moi, c'est bon pour mes statistiques. C'est pas plus de 48 heures, tu peux bien accorder ça à un ami.
Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein.
Je trouve aussi. Mais à Casablanca, je cite, la pauvreté était insolente. Elle ne se dissimulait pas derrière un périphérique. Elle faisait face à la richesse, celle qui s'affichait par des parois de béton et de verre conçues par des architectes prestigieux. Pour bien faire, il aurait fallu raser les dernières masures qui dévaluaient l'environnement. Mais les habitants avaient décidé que leur avis comptait. Voilà pourquoi la police fait du zèle pour améliorer les statistiques. Quand Incoli Jean Bofan a commencé à écrire son roman, il n'était pas allé à Casablanca encore, mais il a vite compris ce qu'on essayait de cacher et comment on utilisait les migrants. Écoutez Incoli Jean Bofan qui m'a répondu depuis Haïti, où il est en ce moment. On entend même quelques oiseaux derrière lui.
Oui, on s'en sert comme on veut. Il s'en sert pour ses statistiques, il s'en sert en fait. Déjà dès le début, voilà, on voit que bon, on s'en sert. Lui, il est juste victime. Il est à la merci de tout le monde. Le migrant est à la merci de tout. J'ai commencé à regarder Casa sur une carte, sur Google Maps. Et quand en parlant un peu de Casa, évidemment, vous dites l'endroit où ça bouge au bord de la mer, c'est le quartier de Aïn Diab. Et Aïn Diab a été réaménagé il n'y a pas longtemps. Il y avait des pauvres qui étaient là. On a tout rasé et on a tout reconstruit. Et puis j'étais sur place et c'est là-bas que j'ai appris d'autres détails. Et qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient là et qui, en fait, ils, comme j'écris dans le roman, ils jouent à l'incruste. Ils ne veulent pas bouger, donc maintenant ils essaient de négocier avec le gouvernement, ils se regardent en chien de faïence, quoi, en fait. Mais ça, c'est quelque chose de réel que j'ai trouvé là-bas. Juste qu'en regardant la carte, ça gêne. Ça gêne, ces bidonvilles.
Alors, c'est un roman noir, Nicolas, mais social aussi.
Absolument, c'est ses vies de petits boulots illégaux en général. Il est brouteur, par exemple, vous savez, des arnaqueurs qui sévissent sur Internet, qui séduisent une femme européenne pour lui soutirer son argent. Il connaissait bien Ishraq. Elle participait même à ses arnaques. Faut bien vivre. Toute la galerie de personnages, Cécé, Mokhtar, Ishraq, l'adjoint du commissaire aussi, un sosie du rappeur Booba, Zahira, la mère d'Ishraq, ou Farida Azouz, qui spécule sur l'immobilier de Casablanca. Chacun est à la fois un suspect et un peu une allégorie des problèmes sociaux et politiques du pays.
Et effectivement, ces gens-là sont là, ils ont des rôles, et les gens ne sont pas inertes. C'est-à-dire que même si les États et les gouvernements sont peut-être un peu à la traîne, mais les êtres humains, eux, continuent à se battre. Bon, il s'agit de vivre ou de survivre. Ces personnages, en fait, la société dans laquelle ils vivent.
Alors c'est un polar parce qu'il y a un meurtre, mais vous n'y trouverez pas une enquête à la Sherlock Holmes, mais même si à la fin on sait quand même ce qui s'est passé. La solution d'ailleurs est plus complexe qu'il n'y paraît, je vous dis rien bien entendu, non, mais c'est surtout la visite d'une ville et d'une époque dans un style clair, précis et même très drôle parfois dans cette noirceur.
La Belle de Casa de Incoli Jean Bofan, donc chez Actes Sud et écrit en français, on l'a entendu. Merci Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
À suivre, un voyage en Irak. L'Irak, comme on ne vous le raconte pas souvent, grâce au regard d'un journaliste franco-irakien qui nous emmène dans sa très grande famille.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h30 et vous nous emmenez maintenant en Irak, Sophie Larmoyer.
L'Irak se stabilise doucement après des années de guerre contre l'État islamique et c'est encore très fragile. Jeudi soir, par exemple, l'explosion d'une voiture piégée à Mossoul a fait des victimes. Par ailleurs, mardi, l'ONU annonçait que plus de 200 charniers renfermant jusqu'à 12 000 corps avaient été découverts dans des provinces du nord et de l'ouest du pays, des régions tenues ces dernières années par le groupe djihadiste. Par ailleurs, le gouvernement est contesté, accusé de corruption, le poids des milices chiites prend de l'ampleur et on va le voir tout à l'heure, le sud est menacé par une terrible sécheresse. Mais aujourd'hui, dans les carnets, on a eu envie de vous raconter l'Irak autrement avec notre invité. Bonjour Ferhat Alani.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, né en France de parents irakiens et vous avez écrit un drôle de livre. Il s'appelle Le Parfum d'Irak. Vous y racontez de manière très personnelle votre pays, votre deuxième pays que vous avez découvert pour la première fois à 9 ans, c'est ça, en 1989, et dont on sent tout au long de ces pages que vous y êtes viscéralement attaché.
Tout à fait. En fait, moi, en 89, j'ai 9 ans. Je ne connais rien du pays de mes parents. Tout ce que j'entends, c'est des choses assez sombres sur la dictature de Saddam Hussein.
Mon père
sur...
était opposant.
Mon père était opposant politique. Mmh. Il a quitté l'Irak en 72 et l'ombre de Saddam Hussein planait déjà à la maison. Je savais que j'avais un pays plutôt merveilleux et mon père m'en parlait souvent. Et quand on a eu l'opportunité d'y aller en 89, j'avais tous les clichés en tête d'un enfant sur l'Irak, Ali Baba, les chameaux, les dunes de sable, et je découvre un pays ultra moderne.
Avec des grandes maisons.
Avec de grandes maisons cossues, un aéroport ultra moderne, des routes goudronnées, des luminaires, des voitures japonaises et américaines. Enfin, j'étais émerveillé en tant qu'enfant.
Première rencontre avec votre bled, vous dites.
C'était mon bled à moi, effectivement.
Quelques mots sur la forme que vous avez choisie pour ce récit. Il fait environ 140 000 signes, c'est-à-dire 1000 tweets. Tout s'écrit en fait pendant l'été 2006, l'année de la naissance de Twitter d'ailleurs. Mais ces tweets sont datés de 1989 à 2011, qui est l'année du retrait des troupes américaines d'Irak. Pourquoi ces petites touches impressionnistes en 140 caractères ?
Alors, en fait, c'était d'abord par provocation. Parce que sur Twitter, tout va très vite. Donc à mon petit niveau... modestement, j'ai essayé de rééquilibrer un petit peu l'info sur l'Irak en humanisant un petit peu le conflit, en racontant des choses du quotidien, des anecdotes, des petites histoires qui racontent la grande.
Notamment parce que vous nous faites complètement entrer dans votre famille. Vous avez un nombre d'oncles, de tantes, de cousins, cousines incalculables. On est surtout entre Bagdad et Fallujah parce que c'est là que tout le monde habite.
Effectivement. Encore une fois, quand je suis enfant à 9 ans, moi, j'ai pas de famille en France. Mmh. J'ai une petite sœur que j'aime beaucoup, mais mes parents. Et je vois mes amis aller en week-end rendre visite à leur tante. Et moi, j'étais assez jaloux. Et quand j'annonce ça à mon père, il sort une feuille blanche. Il se met à écrire des dizaines et des dizaines de noms. Il me tend la feuille à la fin et me dit « ça, c'est ta famille ». Donc quand je vais en Irak, effectivement, je m'accroche à cette famille très nombreuse. Et encore aujourd'hui, je les remercie de cet accueil de 89. Et j'ai comme une dette envers eux. Et c'est pour ça que j'ouvre la porte vers ma famille, en fait.
Vous étiez un petit peu jaloux par rapport à vos camarades, mais en même temps, quand vous rentrez après 2 mois en Irak, vous avez des trucs à leur raconter que eux n'ont pas vécu. Hein. Le premier voyage donc à 9 ans, vous allez à Bagdad et vous allez un peu à Fallujah, dans la famille de Fallujah, donc à la campagne. Hein. Vous jouez sur un terrain de foot et à travers tous ces lieux que vous nous faites découvrir, on découvre aussi l'histoire de l'Irak justement. Hein, parce que ce terrain de foot, par exemple, il va devenir un lieu assez terrible.
C'est exactement ça. En fait, évidemment, à l'époque, je n'avais pas conscience d'être sur un lieu qui allait devenir symbolique plus tard. Mais j'ai eu la chance d'aller à Fallujah, qui était un peu notre Normandie à nous. C'était la campagne à 50 km de Bagdad. Et effectivement, pour parler de ce terrain de foot, il deviendra plus tard le cimetière des martyrs. Un cimetière où sont enterrés des civils et des combattants.
Plusieurs milliers.
3500 à peu près, suite à la bataille de Fallujah de novembre 2004. Ouais. Donc, à travers cette histoire, c'est plein de petites anecdotes comme ça que je raconte de manière simple et je fais comme des... On appelle ça des flash-forwards, c'est des rappels de l'histoire.
Vos souvenirs d'enfance ressurgissent beaucoup à travers les sens, en fait. On est plutôt dans les odeurs au début, il y a cette glace à l'abricot.
Exactement. La Madeleine de Proust, moi, c'est le parfum abricot de Bagdad. J'ai une mémoire olfactive, donc les odeurs, les goûts aussi me rappellent des moments très précis de l'Irak. Et c'était aussi un objectif, de raconter des sensations, raconter le bruit, qui est très important dans un pays en guerre, pas seulement en Irak. Mmh. Et ça permet, je pense, à ceux qui ne s'intéressent pas forcément à l'Irak, de vivre un petit peu ces instants.
Quand vous revenez à 12 ans, l'Irak est sous embargo, il n'y a plus de glace, c'est interdit.
Exactement, quand on est enfant ou adolescent, on cherche des bonbons, des gâteaux, des glaces, et on découvre qu'il n'y a plus de sucre à cause d'un embargo implacable imposé par l'ONU. Et ça, c'est une injustice pour un enfant. Et plus tard, avec le recul, je comprends que cette injustice est beaucoup plus large.
À force de jouer les observateurs et les anthropologues, vous êtes devenu journaliste, évidemment, pour pouvoir continuer à témoigner. Comme vous pouviez des deux côtés, dans la zone verte, la zone très protégée, et la zone rouge, vous racontez aussi comment les soldats américains, très vite, n'ont plus eu de contact avec la population finalement.
C'est ça. Au début, les Américains faisaient la queue dans les restaurants pour acheter leur sandwich. Ils parlaient aux Irakiens, ils se touchaient l'épaule, ils s'échangeaient des mots amicaux. Ensuite, lorsque les attaques des insurgés touchent les Américains au jour le jour, à un moment donné, c'était 75 attaques par jour, les Américains se sont repliés dans leur base et dans leur convoi. Et moi, quand j'ai eu la chance de les accompagner 2 ou 3 fois, j'ai compris qu'ils avaient conscience qu'ils n'avaient rien à faire ici. Et donc, j'ai eu des discussions sur la fin avec eux, intéressante sur leur rôle en Irak. Et avant de partir, ils me posent la question: qu'est-ce qu'un sunnite, qu'est-ce qu'un chiite, qu'est-ce qu'un arabe, qu'est-ce qu'un kurde? Et je leur ai dit que c'était étonnant après 15 ans sur place, de ne rien connaître du pays. J'étais surpris par leur ignorance.
Ça, c'est votre 1000e tweet. Qu'est-ce qui reste comme trace de cet Irak que vous racontez jusqu'en 2011, aujourd'hui, parce que vous retournez régulièrement encore en Irak?
Malheureusement, c'est chaotique. Je ne vois pas encore de base sur laquelle on pourrait construire ou reconstruire le pays. C'est un pays qui s'enfonce encore de jour en jour. Il y a des soulèvements à Bassora, à Bagdad, dans toutes les villes du pays, parce que les besoins primaires ne sont pas remplis. Je garde quand même espoir lorsque je rencontre la jeune génération d'Irakiens qui maintenant ne fuit plus le pays et veut reconstruire au moins l'identité irakienne, la citoyenneté même qui était devenue tabou après la guerre. Moi j'ai espoir que cette jeune génération reconstruise un pays uni.
Bassora, c'est une ville où on va aller maintenant hein, pour un reportage. C'est une ville qui subit une très forte sécheresse. C'est une ville que vous connaissez bien.
C'est une de mes villes préférées en Irak. On l'appelait la Venise du Moyen-Orient à l'époque pour ses canaux. Aujourd'hui, ces canaux sont secs. Le choléra est revenu. Les gens tombent malades en buvant de l'eau. Il n'y a pas de travail alors que la région de Bassora est la plus riche du monde potentiellement. 90% du pétrole irakien vient de cette région. Et ce que me disent les Irakiens de Bassora, c'est que ce pétrole, ils n'en voient pas la couleur.
Énorme paradoxe. Merci beaucoup Ferhat Alani d'être venu nous parler de votre Irak que vous aimez et dont vous parlez extrêmement bien.
Merci.
Donc votre livre c'est Le Parfum d'Irak avec des très belles illustrations, j'en ai pas parlé, mais de Leonard Cohen. Ce sont de très très beaux dessins, des dessins qu'on peut retrouver dans la web-série qui a démarré sur Arte depuis le 11 octobre sur le site d'Arte. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite.
Merci de votre invitation.
Europe 1.
L'Irak, je vous le disais, on y reste. Direction Bassora dans quelques instants. Les changements climatiques y sont désastreux. Les conséquences de la sécheresse précarisent les Irakiens.
Europe 1, les carnets du monde.
On va rester en Irak, Sophie Larmoyer, mais cette fois tout à fait au sud.
Le sud de l'Irak, c'est la basse Mésopotamie, le berceau de civilisations millénaires, une région d'agriculture aussi dont l'identité est liée au fleuve, le Tigre et l'Euphrate. Or cet atout, l'eau, est en train de disparaître. À Bassora et sa région, les Irakiens connaissent la pire sécheresse depuis 1930. Ajoutez-y des pollutions et une mauvaise gestion par le gouvernement, le cocktail devient dangereux. Écoutez ce reportage, il est signé Guillaume Perrier.
La police et les milices chiites encerclent toute la place devant le bâtiment incendié du gouvernorat de Bassora. La grande ville du sud irakien gronde. Ses habitants sont épuisés par la sécheresse et par l'incurie des autorités. Des rassemblements ont enflammé toute la ville et sont le signe de la frustration de la population. Ahmed, 23 ans, est l'un des meneurs de ces manifestations.
On demande des choses simples, un gouvernement stable, la sécurité. Ici à Bassora, il n'y a pas de gouvernement et c'est nous qui souffrons. Je travaillais pour une compagnie pétrolière mais maintenant ils embauchent des étrangers. C'est terrible, on n'a plus de travail. À cause de l'eau, on est tous malades. Beaucoup ont été empoisonnés, moi je n'ai même pas pu aller me soigner. Et ce problème de l'eau pourrait être résolu en quelques jours si on utilisait juste une petite partie des bénéfices du pétrole. Mais ils ne le feront pas. Ce sont tous des voleurs qui pillent l'État. Tout marche comme ça. Il faut appartenir à un parti ou à une milice politique pour recevoir quelque chose.
Avec sa promenade au bord de l'eau, avec ses canaux, ses palmeraies et ses vergers, Bassora était autrefois surnommée la Venise du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, toute la région a soif. À la sécheresse s'ajoute la baisse du niveau des deux grands fleuves pourvoyeurs en eau douce, le Tigre et l'Euphrate, avec des conséquences désastreuses sur l'environnement, explique le docteur Choukri Al-Hassen, biologiste à l'université de Bassora.
C'est la principale artère de vie ici à Bassora. Voyez, jusque dans les années 80, les gens buvaient l'eau sans problème. Mais depuis, on a construit de nombreux barrages en amont, en Turquie, mais aussi ici, en Irak. L'Iran a détourné le cours des affluents. Tous ces facteurs ont provoqué une baisse du niveau des fleuves, et cela a été compensé par un afflux d'eau de mer, de l'eau salée que l'on retrouve dans toute la région.
Le taux de sel que le scientifique est en train de mesurer dans l'eau du fleuve est 100 fois supérieur à ce qu'il était dans les années 90.
Les premières victimes de la pollution de l'eau, ce sont les animaux et les végétaux. La nature souffre. D'abord, les palmiers plantés le long de la rivière sont morts à cause de la salinité de l'eau. La terre est brûlée par le sel. Les poissons d'eau douce que l'on mange ont commencé à disparaître. Les tortues et les crabes meurent. Ils sont remplacés par des poissons de mer. Cet écosystème est en train de devenir un écosystème marin.
L'impact de la sécheresse et de la salinisation sur la culture et l'économie traditionnelle de la région est dramatique. L'élevage de buffles, la pêche, la culture de dattes sont en train de dépérir. La petite ville de Siba, par exemple, était réputée pour ses palmeraies luxuriantes. Mais la sécheresse de cette année a anéanti les récoltes, constate Shakir Mohamed, un agriculteur de 71 ans.
Avec quelques mètres carrés, on pouvait produire une tonne de dattes. On faisait pousser des concombres, des aubergines, des tomates. Maintenant, c'est un désastre. Notre seule activité, c'est l'agriculture. Tous mes ancêtres étaient agriculteurs, depuis au moins 4 générations. Notre mode de vie, c'est d'élever du bétail, de faire pousser des fruits et légumes. Un jour, on sera tous obligés de partir.
Autre conséquence dramatique, les marais irakiens sont en train de disparaître. C'est une vaste étendue marécageuse située à 100 km en amont de Bassora et qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le poisson se raréfie, les buffles meurent, les canaux s'assèchent. L'écosystème unique de ces marais et le mode de vie traditionnel de ses habitants sont menacés, explique Jassim Al-Hassadi de l'ONG Nature Iraq.
Nous avons connu des bouleversements dramatiques pour les marais. Il n'y a plus assez d'eau apportée par le Tigre et l'Euphrate pour réinonder totalement les marais. Leur surface prévue était de 9650 km², mais aujourd'hui, on est à peine à 20% de l'objectif de remplissage.
La sécheresse provoque des déplacements de population, des villages se vident, des tensions politiques resurgissent. Cette crise de l'eau qui frappe l'Irak, à peine sortie de plusieurs années de guerre, fait déjà planer la menace d'un nouveau conflit. Bassora, Guillaume Perrier, Europe 1.
Retour en studio avec Guillaume Perrier qui est rentré d'Irak. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sophie.
En écoutant votre reportage, on se dit que finalement c'est un gros paradoxe. Cette région en grande souffrance du fait de la sécheresse, de la pénurie d'eau, alors que par ailleurs elle est riche, riche de son pétrole.
Oui, puisque la région de Bassora concentre pas moins de 80% des réserves de pétrole du pays. Et l'Irak, cette année, tous les records de production, le pétrole a rapporté 80 milliards de dollars à l'État irakien. Oh. Donc c'est une manne, comme vous le voyez, qui bénéficie très peu à la population. La corruption reste évidemment le problème numéro un en Irak. Hein, et du coup, la population du Sud se sent totalement laissée pour compte. Mmh. Alors que l'accès à l'eau devrait être une évidence, les habitants doivent dépenser des fortunes pour acheter de l'eau potable, y compris pour leurs bêtes. Et on a, depuis cet été, plus de 100 000 personnes qui ont été gravement intoxiquées par de l'eau impropre.
100 000 personnes. Donc le sud du pays dont vous parlez, à majorité chiite, se trouve déstabilisé. Et il faut regarder au-delà même, hein, parce que vous le disiez dans le reportage, où c'est l'un des intervenants qui le disait, c'est bien une crise régionale dont il s'agit, avec la responsabilité de pays comme la Turquie ou comme l'Iran.
Oui, alors la Turquie, par exemple, hein, elle possède les sources des deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et elle a construit depuis 30 ans 22 barrages sur ces deux fleuves.
22.
D'autres sont encore en projet ou en construction. Mmh. Et le 22e, par exemple, est à Ilissou, donc dans le sud-est de la Turquie. Il est en cours de remplissage cette année, ce qui a sans doute affecté le niveau des fleuves depuis le mois d'avril. Alors ce n'est pas nouveau non plus, ce constat, puisque la Turquie se sert de l'arme de l'eau pour faire pression sur ses voisins syriens et irakiens. C'est comme cela qu'elle avait fait plier la Syrie d'Assad déjà dans les années 90 pour obtenir la tête du leader kurde Öcalan. Et en plus de la Turquie, vous l'avez dit, l'Iran est aussi accusé de détourner les affluents du Tigre. L'Iran est également frappé par une violente sécheresse, une forte sécheresse cette année. Et en fait, finalement, chacun essaye d'imposer sa loi sur ces fleuves alors qu'une concertation régionale est plus que jamais indispensable pour éviter que cette crise de l'eau ne dégénère totalement.
Donc crise politique, économique, écologique aussi, hein, on l'a entendu. Et on parle rarement de l'Irak sur ces sujets concrets comme celui-là, la pénurie de l'eau et ses conséquences. Merci de l'avoir fait sur Europe 1, Guillaume. À bientôt dans les carnets.
Europe 1.
Un dernier voyage dans un instant du côté de Lotistan. Joseph Chovanec nous emmène observer ce qui se passe au zoo.
Europe 1, Les carnets du monde.
Notre dernière destination, Sophie Larmoyer, comme chaque dimanche, c'est l'Autistan.
L'Autistan, c'est cette contrée dans laquelle nous convie chaque semaine Joseph Chovanec. C'est le grand voyageur de la bande des carnets, philosophe et autiste Asperger, souvent en vadrouille.
Toujours.
Et toujours fidèle. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors c'est une sorte de déclaration d'amour que vous faites aujourd'hui, déclaration d'amour pour les zoos.
Oui Sophie, je l'avoue, c'est peut-être politiquement incorrect, mais j'adore les zoos. Alors certes, je suis conscient de la souffrance d'une vie en captivité. J'évite d'aller dans les zoos maltraitants. Mais les zoos, c'est bien plus que des animaux. Il y a une semaine, jour pour jour, j'en ai eu une démonstration magistrale. Avant de quitter le Maroc, après un nouveau séjour consacré à rencontrer des familles avec des personnes handicapées, j'ai pu réaliser un vieux rêve, à savoir visiter le zoo de Rabat. Une expérience inoubliable.
Alors, qu'est-ce qui le rend si extraordinaire, le zoo de Rabat ?
Le zoo de Rabat est très bon, on y apprend plein de choses surprenantes. On y fait des apprentissages linguistiques. Au zoo de Rabat, les inscriptions sont toujours bilingues, en arabe classique et en français. L'occasion unique pour moi d'apprendre des mots nouveaux. Par exemple, comment on dit durée de gestation.
Très utile dans la vie courante.
Ou régime alimentaire. Ou même des mots plus simples que j'ignorais. Comme j'apprends l'arabe au sultanat d'Oman, certains mots ne font pas partie du vocabulaire local. Par exemple, tropical, comme dans forêt tropicale, il n'y en a pas en Oman.
C'est comme un grand dictionnaire à ciel ouvert en quelque sorte.
Oui Sophie, avec beaucoup de rigolade. Le fait d'apprendre par exemple que le mot ibis se dit en arabe Abu Munajil, littéralement papa fossi, c'est génial.
Alors je précise pour ceux qui ne sauraient pas que l'ibis est un grand oiseau échassier avec un grand bec recourbé qui ressemble à une faucille.
Voilà. Mais il y a beaucoup plus encore. Au zoo, parfois les animaux les plus intéressants sont les animaux non officiels entre guillemets. Quand on regarde un peu attentivement, on trouve beaucoup. Et j'ai vu d'ailleurs au zoo de Rabat une affiche consacrée à ces animaux-là qui se sont installés au zoo sans y avoir été invités. Par exemple, une grande volière du zoo est consacrée à divers oiseaux. Très bien. Sauf que sur le grillage de la volière, des cigognes ont construit des gros nids. Du coup, quand on regarde les oiseaux, il faut parfois réfléchir un moment pour savoir s'ils sont dans la volière ou hors de la volière. Et peut-être d'ailleurs que les oiseaux se posent exactement la même question. Ça démontre que finalement la volière est une aberration de bipèdes. Et ces interactions de part et d'autre de la grille m'ont donné à réfléchir. Je regardais les singes en train de manger. Alors j'adore regarder les singes. Ça me donne des idées pour les sauteries officielles auxquelles je dois assister périodiquement. Okay. Donc pendant qu'un macaque mangeait une tomate, un rat s'était glissé furtivement dans sa cage. Il avançait avec une prudence extrême. Et finalement, le rat a réussi tout d'abord à boire dans la gamelle du singe, puis à manger des fruits. Le tout sans que le macaque le remarque, alors même que le rat était littéralement dans son dos. Puis, à toute allure, le rat s'est enfui vers la liberté. Ésope aurait sans doute écrit l'une de ses meilleures fables s'il avait vu le spectacle.
Voilà, et plus récemment, La Fontaine aussi, sans doute. Est-ce que vous avez un animal préféré au zoo, Joseph ?
Ah, Sophie, je crois que les spécimens les plus curieux d'un zoo, ce sont les humains. J'aime observer les humains, savoir comment ils se comportent, etc. Pour bien comprendre une famille européenne ou marocaine, il suffit de passer du temps au zoo.
Oui, c'est ça, ça ne vaut pas seulement pour le Maroc.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit combien l'Européen moyen est isolé. Il vient seul ou à deux au zoo, alors qu'au Maroc, c'est la quinzaine, vingtaine de personnes qui
viennent. C'est la famille très élargie.
Voilà, exactement. Et le mot de la fin pourrait revenir justement à une petite fille qui était avec ses parents dans l'une des allées du zoo. Ses parents lui expliquaient que là, il y a les rhinos, à gauche, il y a les buffles, etc. Un petit groupe de gens arrive, dont moi. La petite nous regarde, les yeux écarquillés, nous montre du doigt et s'écrie « Papa, il y a aussi des hommes
!» Voilà, toujours écouter la sagesse des enfants au zoo et ailleurs. Merci beaucoup, Joseph.
Merci Sophie, à très bientôt au zoo.
À dimanche prochain.
Europe 1.
C'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous le savez, les reportages du jour sont disponibles en podcast sur europe1.fr. Vous pouvez même vous abonner au podcast des carnets. C'est facile et c'est gratuit. Sophie Mallier a réalisé cette émission. Florence Gimalac m'a aidé à la préparer. Merci à elle. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h, sans faute, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.
À dimanche prochain, Sophie Larmoyer. Dans un instant, on retrouvera Christophe Ondelatte, qui aujourd'hui nous fera le récit d'un défi incroyable, celui de l'aventurier Christian Clot, qui a parcouru en solitaire les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Une expérience unique, une aventure incroyable à découvrir de 14h à 15h sur Europe 1, juste après les infos.